Chapitre 35. Fort Delgrèce, Basse-Terre, 10h. Les experts de la DZPJ ont évacué du Fort Delgrèce les rares touristes et les nombreux journalistes. Une rubalise interdit à quiconque d'entrer dans la citadelle. L'accès au monument qui domine Basse-Terre est réservé à une dizaine de policiers. Ils cherchent des empreintes digitales sur la tombe de Richepanse, des traces de pas ou de pneus sur les pelouses. N'importe quel indice abandonné par l'assassin entre les murailles épaisses de la forteresse. Amiel les observe. Valéric lui a demandé de coordonner les premières constatations. Le commandant est retenu à la prison de Bemao et Jolène attend son avion à Antigua. Le harponneur a-t-il commis une nouvelle erreur après les cheveux retrouvés à la cascade Parabole? Son analyse ne devrait d'ailleurs pas tarder à tomber. Les collègues du département scientifique ont travaillé toute la nuit sur l'échantillon ramassé sur les lieux. Amiel surveille la meute de journalistes, zoom pointé et micro tendu. Le tueur ne pouvait pas trouver d'endroit plus symbolique que la tombe de Richepanse pour faire parler de lui, enflammer l'île et réveiller les vieux démons. Après les marches des esclaves de Petit Canal, la signature du criminel est claire. Assassiner des étrangers et convier la presse à venir photographier leurs corps dans des lieux de mémoire liés aux pires moments de l'histoire. Fort Delgrèce, Basse-Terre. 10h11. Amiel laisse les experts travailler. Un travail minutieux, fastidieux, nécessaire. Même si 99,99% des échantillons d'herbe, de sable ou de terre ne fourniront aucun indice. Les 8 tombes du fort, dont celle de Richepanse, se situent à l'écart des principaux vestiges historiques. Une casemate, quelques poternes, une rangée de canons. Amiel s'éloigne en direction du mémorial. Admire la trentaine de hautes pierres noires levées qui encerclent le visage sévère de Louis Delgrèce, puis s'arrête devant la vue vertigineuse du haut de la forteresse. Vague et écume au sud, volcan et brume au nord. Le capitaine enfonce un écouteur dans son oreille pour se repasser l'enregistrement de l'entretien qu'il vient d'avoir avec Fabien Collin. Lorsque Valéric l'a appelé en urgence, Amiel était à l'hôpital de Capesterre-Belle, au chevet du rescapé de la cascade Parabole. Fabien a confirmé la plupart de leurs intuitions. Audrey et lui avaient choisi au dernier moment de passer la nuit au pied de la cascade, sans l'avoir programmé. Personne n'aurait pu le prévoir. Comme il semble difficile d'imaginer que l'assassin d'Audrey ait pu les suivre pendant toute la randonnée, il faut en conclure que le meurtrier a choisi une victime au hasard. Que ce n'est pas Audrey qui était visée, mais n'importe quel touriste hors piste. Une randonneuse de l'aube. Mais dans ce cas, pourquoi avoir épargné Fabien? Amiel a appris à ne négliger aucune piste. Il doit étudier le passé d'Audrey Colombel, qu'elle soit ou non la victime malchanceuse d'un prédateur. Fabien, lui, a garanti qu'elle n'était jamais venue auparavant en Guadeloupe. Elle était davantage attirée par les destinations sèches ou désertiques. Les treks dans les steppes, les ascensions à plus de 3000. Audrey était une marcheuse entraînée, une alpiniste expérimentée, et pas une bonne nageuse. Encore moins en eau vive. Elle n'avait choisi la Guadeloupe que parce qu'elle avait reçu une offre avantageuse. Une réduction de près de 40% sur les billets d'avion, grâce à une loterie en ligne. Audrey avait l'habitude de voyager seule ou accompagnée, mais rarement avec le même compagnon. D'après les légistes, Audrey est morte sur le coup, hier matin, lorsque le harpon s'est planté dans sa poitrine. L'assassin l'a donc traînée jusqu'à son véhicule. Ils connaissent désormais la chronologie du crime. Ils savent que le meurtrier circulait à bord d'un SUV compact, qu'il a dû rester un long moment à espionner Fabien et Audrey près de la cascade Parabole avant de passer à l'acte, qu'il a peut-être croisé quelqu'un, avant ou après son crime, qu'il a peut-être laissé une trace qu'Amiel doit retrouver. Cascade Parabole, Parc National de la Guadeloupe, 12h. Les trois chasseurs pique-niquent. Ils ont posé leurs fusils et sont assis sur un long tronc de gommier. Une bouteille de rhum blanc à moitié vide est enfoncée à leurs pieds dans la terre boueuse. La cascade Parabole n'est qu'à une centaine de mètres, mais le bruit de la chute d'eau est couvert par l'air de guoka qui sort du petit transistor accroché à une branche. Amiel s'approche avec assurance des trois créoles. « Salut !» Le plus jeune des trois, un tatoué au bras musclé, se lève pour éteindre la radio. Les deux autres, un quinca obèse portant un t-shirt ultra-trace, et un sexagénaire ridé, filiforme, regard fuyant, s'arrête de manger.
« Salut !»
Amiel évalue leur festin. Pain, poulet boucané, chips de manioc, piment antillé à habanero, bol de sapotille.
« À quoi boire, l'ami ?»«
Pas de refus. » Le capitaine s'installe, grimaçant à peine quand il boit cul sec le shot de mauvais rhum. Il a fait le choix de ne pas montrer sa carte de police. Les chasseurs ne portent pas spécialement les flics dans leur cœur.
« Je vois que vous êtes des habitués de la forêt. Je peux vous poser quelques questions ?»«
Des flics ?»
fait le plus âgé, méfiant.
« J'ai une tête de flic ?»
Les trois le dévisagent. Amiel sait que c'est très fin, ses sourcils épilés. Ses gestes racés ne sont pas des marqueurs puissants de virilité.
« Non. »«
T'es quoi alors ?»
Amiel a eu 2 minutes pour improviser.
« Journaliste, j'enquête sur le meurtre de la touriste. Ça s'est passé pas loin, vers la cascade. »«
Ouais, on sait. »
Visiblement, les trois chasseurs ne portent pas davantage les journalistes dans leur cœur. Mais il y a eu 30 secondes supplémentaires pour trouver une idée.
« Je travaille pour Arc-en-Ciel. »
Un sésame. Arc-en-Ciel est le seul média respecté par les habitants de l'île qui ne croient plus aux informations officielles. Immédiatement, les deux plus jeunes se dérident. Et le troisième lui offre son sourire édenté. Le quinca lui resserre un godet.
Vous devez souvent patrouiller dans le coin, tous les trois. Vous avez rien vu ?
Non.
Pas de fourgon ? Ou plus compact, genre 4x4 ?
Non.
Vous avez rien trouvé ? N'importe quoi ? Une canette ? Une cigarette ?
Non.
Le plus jeune des trois a hésité. Les deux autres ont tiqué. Amiel est aussi convaincu qu'ils mentent. Qu'ils ont au moins quelque chose à cacher. Le vieux ridé est le plus rusé. Il tente de faire diversion.
Si ça se trouve, c'est nous qui l'avons harponné, la française. On n'a pas besoin de raver cafard dans la montagne, ni ailleurs sur l'île. Si ça se trouve, c'est nous les assassins de l'aube.
Le jeune tatoué semble se désintéresser de la conversation et a sorti son téléphone.
Les assassins d'aube,
corrige Amiel.
Ou les souffleteurs de crépuscule.
Le quinca manque de s'étouffer avec sa cuisse de poulet boucané.
« Les quoi ?»
Amiel a décidé de les bousculer.
« Si vous voulez défendre votre île, les gars, faut connaître vos classiques. C'est un poème, Nouvelle Bonté, le plus connu d'aimer. »
Le jeune tatoué est resté bloqué sur son portable. Le vieux, faute de dents, a renoncé à ronger son poulet. Seul le quinca fait un effort pour suivre.
« Aimer ? Jacquet ? Celui qui croit qu'on a été champion du monde en 98 grâce à lui, s'il n'avait pas eu Thuram en demi,
aimer Césaire !»
précise Amiel.
Alors je repose ma question. Est-ce que...
Il n'a pas le temps d'aller plus loin. Le jeune tatoué a lâché son portable, s'est levé et a attrapé son fusil. Il le tient braqué sur les capitaines de police.
Il n'est pas journaliste. J'ai vérifié sur le site d'Arc-en-Ciel. Je me doutais bien que j'avais déjà vu sa tête. On a un contact en commun sur Insta, un cousin de Trois-Rivières. J'ai regardé sa page, vous savez quoi ?
Le jeune tatoué approche le canon à quelques centimètres du fond d'Amiel.
On a affaire à une tata. Vrai de vrai, les gars. Une folle qui n'a même pas peur de poser avec son petit copain main dans la main, ni de mettre son nom. Amiel ou Assou.
Le vieux ridé prend un coup de rhum blanc, une rasade directe au goulot.
Dire qu'on a failli le prendre pour un flic.
Le quinca s'est levé et a lui aussi attrapé son fusil.
Faut pas te promener tout seul dans la forêt, ma crevette. C'est dangereux. Un grand garçon comme toi, tu pourrais faire de mauvaises rencontres.
Amiel ne panique pas. Il a l'habitude. Tellement l'habitude. Depuis le collège, depuis qu'il a décidé d'assumer qui il était, il a pu vérifier une certitude. L'homophobie n'a pas de couleur de peau. Elle pousse autant chez les blancs matignons de sa belle-famille, son ex-belle-famille, que chez les créoles bas du front.
« Ça te dirait de t'amuser un peu avec nous ?»
lance le quinca.
Tu dois bien aimer les jeux entre garçons, comme avec ton copain poète, là, Jules Césaire.
Amiel ne peut s'empêcher de sourire.
Tu te fous de ma gueule en plus ?
S'énerve le t-shirt Ultra Trace.
Vous vous êtes trompé, dit calmement Amiel.
Il a raison, confirme l'édenté. C'est Aimé Césaire, pas Jules.
Jules Césaire, c'est dans Astérix,
précise le jeune tatoué. Être triplement contredit énerve triplement le quinca. Il a lâché son fusil.
Tiens-le en joue,
ordonne-t-il au plus jeune. Il se penche et attrape le pot de piment antillé à habanero.
Quand on était gamin et qu'on chopait une tapette, on lui faisait une bite au cirage ou au dentifrice. Mais je crois que notre crevette a bien mérité une quéquette au piment entier. »
Le jeune tatoué et l'édenté semblent apprécier le sens de la blague du troisième chasseur. Le jeune approche encore son fusil alors que le quinca ouvre le pot de piment.
« Vous vous êtes trompé, » répète doucement Amiel.
« On sait, baisse ton franc, l'enculé !»
Tout se passe alors très vite. Amiel se lève d'un coup, écarte du bras gauche le fusil braqué sur lui, fait rouler le tronc et le vieil édenté d'un coup de pied, tout en saisissant le pistolet glissé dans son dos.
« Je suis flic !»
Le quinca a levé les mains par réflexe. Le jeune tatoué a jeté son fusil à terre. Le vieil édenté reste collé les quatre pattes dans la boue.
« C'était... » bafouille le quinca. « Juste pour se marrer !»
Amiel pointe le canon de son Sig Sauer sur les trois hommes en pivotant lentement. « Vous avez trouvé quelque chose en rapport avec le meurtre d'Audrey Colombel. Alors je vous conseille de parler !» Les trois chasseurs sont devenus muets. Le canon du pistolet s'arrête sur l'entrecuisse du quinca. Il tient toujours à bout de bras le pot ouvert d'Abanero. « À moins que tu préfères une bite au piment entier ?» Le quinca hésite entre sourire et grimace. Il doit être si convaincu de sa virilité qu'il pourrait croire qu'Amiel en a vraiment envie. « Baisse ton froc !» Le quinca se tourne vers les deux autres, ne rencontre aucune solidarité masculine, tente de négocier d'un regard attendri, puis devant celui déterminé d'Amiel, pose la main sur son ceinturon.
« Attends !»
fait le jeune tatoué. Il fouille dans la poche arrière de son treillis et en sort un second téléphone.
On a trouvé ça planté dans la boue, sur le sentier un peu plus loin. On n'a pas pu le traquer, on n'a pas le code PIN. Mais il y a un nom sur la coque.
Il lance le portable à Amiel. Le policier l'attrape au vol sans que son pistolet dans sa main droite ne bouge. Il porte le téléphone à ses yeux tout en surveillant les trois chasseurs en treillis. Et il lit. Audrey Colombelle.